Qu'est-ce qu'on est gâté avec cette température-là, un 21 degrés sur Québec avec le facteur humidex, 1 degré de plus, on était à 22 degrés comme température ressentie. Pour aujourd'hui, ce sera plein soleil, pas grand nuage à l'horizon. Là, je vois qu'il y a des petites lignes d'avions dans le ciel qui sont passées. C'est des avions d'Air Canada qui nous quittent pour un certain temps. Quelle histoire, hein, d'Air Canada? C'est l'autre micro, hein? Ouais. Quelle histoire d'Air Canada où il y a des gens qui veulent retourner à la maison, que ce soit des Canadiens qui veulent revenir ici ou encore des Européens qui étaient de passage à Québec. Mais billet d'avion à 2000$ là,
grève
pour aller en Europe, là, c'est une catastrophe. Une petite famille...
Mais c'est l'offre et la demande.
Oui, je comprends, mais je veux dire, tu sais, il y a beaucoup d'exagération.
Oui, je suis d'accord.
Augmenter les passages, augmenter les vols d'avion, mais 17 000$ pour retourner chez toi, là, pour la famille, c'est une catastrophe pour eux. Le monsieur, sur son, il a même pas ça sur sa carte de crédit. Il sait même pas comment il va faire pour retourner à la maison. Tu sais, concrètement, ce serait beaucoup moins compliqué pour lui d'annuler ce qu'il a à faire dans les prochaines semaines, puis d'attendre la fin du conflit. Moi, c'est ce que je ferais parce que je paierais pas 17 000 piastres pour l'avion.
Encore
c'est
plus là, as-tu cet argent-là dans le contexte actuel, tu sais, pour te loger pendant un bout? Il va falloir que tu reviennes pour travailler.
C'est toujours mieux 17 000 piastres.
Ah oui, non, mais... Je veux dire, tout ça est atroce, mais en voulant dire, ça va être extrêmement cher.
Ouais.
Est-ce que les assurances vont aider ces gens-là en les logeant plus longtemps? Mais chose certaine, je me demande, Air Canada perd combien d'argent par jour en ce moment avec cette grève-là?
C'est 30 000 Canadiens qui veulent revenir chaque jour en sol canadien actuellement.
Est-ce que ça coûte moins cher d'arrêter ça presque maintenant puis de payer ces agents de bord-là lorsqu'ils travaillent et qu'ils demandent une rémunération, ce qui est totalement normal? Point d'interrogation.
Donc ce soir, ciel dégagé, minimum de 10. Demain samedi, ensoleillé, maximum de 28. Et dimanche, ce serait de la pluie avec un maximum de 19. Et à plus long terme, lundi, ensoleillé, avec un maximum de 20 degrés. Notre collaborateur Victor Henriquez est là. C'est un analyste politique, toujours content de lui jaser. Salut Victor. Est-ce que tu es là?
Je suis là. Est-ce que tu m'entends?
Voilà, je t'entends très bien. C'est vendredi, hein? On a de la difficulté à tous les vendredis. On est fatigué. On travaille tellement fort, nous autres, contrairement aux gars de construction qui font de l'asphalte, qui font de la toiture, qui montent et qui lèvent des choses hyper lourdes. Le vendredi, nous autres, on peut se plaindre, nous autres.
Exactement, mon temps pour eux.
Ouais,
on le fait en leur nom. C'est pour ça qu'on sait.
Victor Henriquez, je voulais parler avec toi de Pierre Poilievre, puisque dans les dernières semaines, le clan conservateur a été très, très, très absent là, dans les médias. Là, il est ressorti dans les dernières heures pour arriver avec une campagne nationale contre les quotas fédéraux de mise en vente de voitures électriques. Un peu comme Éric Duhaime l'avait fait avec la campagne « Mon char, mon choix ». Visiblement, ces deux partis-là se parlent. Le Parti conservateur du Québec, le Parti conservateur du Canada, visiblement, ils se parlent. Qu'en penses-tu de la sortie de Pierre Poilievre? Puis d'ailleurs, il n'a toujours pas été élu là, dans sa circonscription.
Ça s'en vient. Ça s'en vient, puis ce sera une formalité. Mais on pourra parler du bulletin, le fameux bulletin de vote de 209 noms, hein, que les gens de ce comté-là auront à remplir, au point où Élections Canada va permettre aux gens d'écrire le nom de leur candidat tellement ils trouvent que c'est ridicule, mais que voulez-vous, les règles électorales ne considéraient pas ce genre de mouvement-là. Un peu trop accessible de devenir candidat, finalement, au Canada. Mais Yannick, deux choses. La première, c'est que tu sais que Pierre Poilievre et Éric Duhaime se parlent, oui, ils se parlent depuis longtemps. Hein. Bon, on m'a souvent dit qu'Éric Duhaime était fortement impliqué avec son équipe, que l'équipe d'Éric Duhaime était fortement impliquée derrière la victoire, la grande victoire de Pierre Poilievre au leadership conservateur. Notamment derrière le fait que Pierre Poilievre a remporté la majorité des comtés, et donc quasiment tous les comtés au Québec, souvent sauf un. Donc ça fait longtemps qu'il y a une communion d'idées entre ces gens-là. Et c'est correct aussi parce que cette droite, elle s'organise et elle a une voix. Et Pierre Poilievre revient. Il est de retour, je pense qu'il faut le dire comme ça. Il est de retour. Ça a commencé la semaine dernière en passant avec un ultimatum qu'il a donné à Mark Carney. Il a dit à Mark Carney, je te donne jusqu'au mois de mars pour avoir deux projets de pipeline, l'autoroute vers le nord de l'Ontario et un projet de gazoduc, de gaz naturel liquéfié. Alors, il a commencé par l'ultimatum, et là, il sort avec ce programme canadien, cette campagne canadienne calquée sur mon choix, mon char. Et bravo à Pierre Poilievre parce qu'il a cette force de communiquer clairement son message. Moi, j'ai toujours admiré ça chez Pierre Poilievre. Ses slogans sont forts. On se rappelle de la fameuse juste inflation. Moi, ça m'avait marqué. Cette créativité-là en politique, elle n'est pas fréquente. Et je trouve ça bien parce que Pierre Poilievre est important dans l'échiquier politique. Et entre nous, Ça reste que c'est l'alternative aux libéraux. Et lorsqu'il y a une alternative forte, ça oblige les gouvernements à être efficaces. Donc, c'est une bonne chose pour tout le monde.
Donc, ce qu'on sait, c'est que la réglementation sur les véhicules zéro émission, ça va entrer en vigueur en 2026. Ça n'interdira pas tout de suite la vente des véhicules à essence, mais on va exiger plutôt qu'il y ait 20% de tous les véhicules légers vendus au Canada à partir de l'année prochaine soient des véhicules à zéro émission. Et c'est supposé d'augmenter ce pourcentage-là jusqu'à temps que ça atteigne 100% des ventes de véhicules neufs d'ici 2035, donc des véhicules électriques. Tout le monde sait à la grandeur du Canada, mais je vais parler pour le Québec, parce qu'en jasant avec des gens au Québec, des gens très impliqués dans le merveilleux monde de l'automobile, ou d'autres qui sont dans la construction au niveau de l'électricité, tout le monde sait que c'est un grand défi qui nous guette là, avec cette loi-là, parce que nos infrastructures ne sont pas disponibles pour fournir tout le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu es dans le secteur de Montréal, pense juste à l'île des Sœurs. T'sais, le nombre de véhicules qu'il y a sur l'île des Sœurs, avec des condos qui sont des grosses tours et tout ça, c'est pas vrai qu'on a tout le système électrique pour fournir en électricité tous ces véhicules-là. Puis c'est pas vrai que quelqu'un à 2 heures du matin va se lever parce que son cellulaire va le réveiller pour dire « OK, c'est beau, ta batterie est pleine, faudrait que tu laisses ta charge à quelqu'un d'autre. » Et là, t'as l'autre qui va se lever à 2 heures du matin pour brancher son char. Ça n'arrivera jamais, ça, Victor.
Ben regarde, moi, je suis un grand fan de l'auto électrique. On pourrait avoir un débat là-dessus. J'en ai fait quelques-uns dans la dernière année, nous, je te dirais. Mais c'est vrai que cette norme-là commence à devenir de plus en plus dérangeante parce qu'il y a aussi le fait qu'on ne sent pas qu'on est en train de faire des gestes concrets pour qu'elles soient réalistes. Et moi, c'est ça qui me dérange le plus. Parce que avoir des normes élevées pour 2035, honnêtement, à un moment donné, jusqu'où faut que tu vises haut pour être capable d'atteindre certaines normes. On sait que le transport est un gros émetteur de GES. On sait que c'est un enjeu. On sait qu'on a un réchauffement climatique. Pour les gens qui l'ont pas senti cet été, je vous invite à aller dehors un peu. Il y a des choses qui se passent. La planète est en train de surchauffer, puis il faut qu'on améliore nos comportements. Parfait. Là où les conservateurs sont très forts, c'est qu'ils ont raison de dire, est-ce que vraiment la solution passe d'abord par les véhicules des gens? De ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler. Est-ce que c'est là qu'on devrait cibler le plus? Et est-ce que cette cible-là est réaliste? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour qu'elle le soit? Et la réponse en ce moment, elle est non. On a mis une cible et on pense que parce qu'on met une cible, le marché va bouger tout d'un coup. Tu sais, il y a des questions qui doivent se poser. Moi, je suis allé en Europe un peu cet été. Là-bas, j'ai conduit une auto chinoise. En passant, j'ai été impressionné par ce que j'ai conduit. La qualité du véhicule, la qualité de la conduite, de la construction. Et le prix aussi, en comparaison avec ce que je conduis ici. C'est hallucinant la différence. C'est une auto hybride. J'ai fait à peu près 1800 km avec un plein d'essence. C'est extraordinaire. Et j'ai pas l'impression qu'on ouvre ces portes-là ici et qu'on a ce choix-là ici. Donc les conservateurs ont un discours qui va porter chez le public parce que les gens, ils vivent ce que toi puis moi on vit. Ce que tu vis, Pascal, c'est qu'on est tous confrontés au même choix. On a le goût de rentrer dans la modernité. On a tous le goût de faire notre part aussi. À un moment donné, il faut que ce soit réaliste. On a des obligations, on a un travail, on a des familles, on a des déplacements. Il y a des gens qui nous écoutent qui habitent en région éloignée, qui ont besoin de faire du 200 km par jour. Puis une auto électrique, ça marche pas. Il y a des gens qui travaillent avec leur pick-up puis ils peuvent pas se payer un Ford F-150 à 200 000 quasiment. Alors, à un moment donné, c'est plus réaliste dans le quotidien des gens. Et c'est là où les conservateurs marquent des points énormes parce qu'ils se sont positionnés comme étant le parti capable de comprendre la réalité de la classe moyenne.
Ouais, ça
va finir par payer.
Ce que j'ai comme Statistique Canada, puis je vais passer la parole à Pascal dans les prochaines secondes, les données de Statistique Canada concernant les véhicules électriques, c'est 7,86% de tous les véhicules neufs qui ont été vendus en mai qui sont des véhicules électriques. Ça continue de baisser depuis qu'on a décidé d'enlever les fameux programmes de remise fédérale puis provinciale, quoique là, c'est revenu au Québec, là, mais pas comme c'était avant. Mais il n'en demeure pas moins que le marché actuellement ne se dirige pas vers le véhicule électrique. Puis les véhicules, quand on achète un véhicule, ça n'a jamais été aussi environnemental, ces véhicules-là, parce qu'ils consomment beaucoup moins d'essence. Je pense que c'est les consommateurs qui vont dicter le marché, puis que les constructeurs vont s'adapter à ce que les consommateurs veulent. Tu me parles des véhicules chinois. On ne peut pas faire rentrer ça ici parce que ça va couper des jobs à la grandeur du Canada, à la grandeur des États-Unis, puis à la grandeur du Mexique. Mais c'est des véhicules qui sont hyper abordables, hyper accessibles, hyper performants. Puis on veut pas faire rentrer ça ici. Fait que là, on est aux prises avec, attends un peu, il y a des véhicules qui sont hyper performants, qui coûtent moins cher l'autre bord, puis qui fonctionnent bien. Puis on a des véhicules, des fois, ici, qu'on paye beaucoup plus cher. Puis, ça pollue peut-être un peu plus parce qu'ils sont plus gros aussi. Là.
Le souci, quand même, est important par rapport aux véhicules chinois aussi dans tout ce qui est sécurité. Là. Mais eux ont répliqué, tu as vu, Yannick, ils ont imposé des tarifs importants. j'allais dire imposer des tarifs imposants, mais c'est le cas de le dire, sur le canola. Toute notre industrie canadienne là, qui en paie le prix, qui est très, très forte ici sur le territoire, ben maintenant, ont des complexités économiques. Ça, c'était une parenthèse. Je trouve que les Chinois sont agressifs là-dessus, puis c'est à se demander c'est quoi l'alliance avec les États-Unis par rapport à notre économie qui s'affaiblit. Mais si on revient à nos moutons, ben, si on prend un Éric Duhaime qui... Moi, je suis tannée de le dire en onde, mais en même temps, c'est mon point. Je m'obstine avec à chaque fois qu'il vient en onde, puis je me dis, Éric, puis on est en onde, là. Je dis, Éric Duhaime, le dossier, la parole, puis l'importance de parler pour les régions, puis ces gens-là, justement, puis qui sommes, vous et moi, là, pas prêts à passer à ce changement-là qui est véhicule à essence électrique 100% d'ici 2035. Est important. C'est un dossier qui est important. Ça devrait être à l'Assemblée nationale. On devrait challenger la CAQ et surtout mettre dans le visage de la CAQ qu'ils nous mentent parce qu'eux-mêmes font semblant d'y croire, mais ils ne croyaient pas puis ils savaient que ça n'allait pas arriver. Mais avec des slogans un peu plus scandaleux, avec l'étiquette un peu plus polémiste qu'on connaît à Éric Duhaime, ça aurait été bon de le voir sortir de ça. Pour lui, c'est se défendre que c'est le côté marketing et que nous, on en parle dans les médias parce que c'est marketing, parce que ça accroche, c'est tape à l'œil. Mais en même temps, le discours de fond est tellement important. Ça n'a pas trop fonctionné. On a vu avec le Parti conservateur québécois, du moins dans la dernière partielle dans Arthabaska. Est-ce que ce n'est pas l'ouverture, une vignette intéressante pour les libéraux lors de la prochaine élection, d'entrer avec des discours de ce type-là, mais plus réfléchis en termes de laisser le scandale de côté?
Tu as tellement raison, Pascal. Puis si j'avais à conseiller Pablo Rodriguez, je dirais à Pablo, tu as une autoroute devant toi. Une autoroute devant toi de pragmatisme à prendre. Il faut que les gouvernements prennent des décisions qui sont réalistes. Il faut que les gouvernements prennent des décisions qui sont basées sur les besoins de leur population. Qu'on fasse évoluer les besoins, c'est une chose, puis c'est important. Qu'on nous informe, puis qu'on nous donne des outils pour faire mieux, parfait. Mais à un moment donné, on ne peut pas prendre des décisions basées sur ce qu'on se dit théoriquement et que dans le besoin de la population, on ne soit pas à l'écoute. Tu as entièrement raison. Ce côté polémiste a nuit à Éric Duhaime, mais il a nuit à Pierre Poilievre aussi. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire, Pierre Poilievre est de retour avec des slogans très forts, avec un discours très fort. En passant, les prochains mois vont être durs pour lui. Il faut qu'il se fasse élire. Ça va être une formalité parce qu'en Alberta, il va être élu. Après ça, il faut qu'il traverse un vote de confiance. Dans le vote de confiance, la question, c'est est-ce que c'est le meilleur homme pour gagner le pouvoir pour les conservateurs? C'est ça qu'ils vont viser. Pierre Poilievre a fait une erreur majeure, selon moi, dernière élection, c'est qu'il n'est pas allé chercher un candidat avec la crédibilité économique nécessaire pour répondre à Mark Carney et à son profil. S'il avait fait ça, moi, je suis convaincu qu'il sera au pouvoir aujourd'hui. Il va falloir qu'il corrige.
C'est pas rien.
Parce que ces gens-là, puis ça s'applique à Éric Duhaime, sont très bons pour les slogans, ont de très bons discours et sont à l'écoute de ce que la classe moyenne, les gens des régions, puis le monde qui travaille, le vrai monde, celui qui se lève tous les matins pour aller faire son 9 à 5, pense. Sont très bons pour connecter avec ça. Ils sont moins bons pour donner des solutions. Ils sont moins bons pour s'entourer d'expertise aussi. Il faut arrêter de penser qu'on est tous capables de faire la job de gouverner. Là. Moi, je ne veux pas des gens qui sont aussi bons que moi. Je veux des gens qui sont meilleurs que moi au gouvernement. Parce que sinon, j'irai au gouvernement en place. Alors, à un moment donné, il va falloir que ces gens-là se normalisent autour de la capacité à réunir des équipes. Pour les libéraux, c'est une occasion, puis c'est peut-être la dernière occasion qu'ils ont d'aller ramener le discours en centre-droite, là où Jean Charest a gagné ses élections de 2003 à 2004 à 2012, là où Philippe Couillard a gagné ses élections aussi. C'est en centre-droite, c'est dans la dépense responsable, c'est dans la classe moyenne, l'économie, c'est là où le discours libéral marche. Dominique Anglade est sorti de là, il faut que les libéraux y retournent.
Ouais.
S'ils ne le font pas, ils ne gagneront pas d'élection. C'est simple de même. Il y a un espace.
Victor,
s'ils ne prennent pas cet espace-là, les conservateurs vont le prendre au Québec.
Oui, Victor Henriques, une minute là-dessus. T'as-tu entendu parler des rumeurs comme quoi il y aurait de la bisbée au Parti conservateur du Québec entre certains qui voudraient que le parti soit peut-être un peu plus hardcore, y aller peut-être avec le mouvement libertarien? Puis ce genre de bisbée-là viendrait des gens qui sont depuis des années et des années avec Pierre Poilievre, ben, en fait avec les conservateurs autant sous l'ère Harper que Pierre Poilievre.
J'ai entendu des rumeurs sur cette bisbille-là. Puis honnêtement, c'est un peu ce qu'on a vécu à QS aussi. Là. Rappelez-vous là, la période de, justement, Gabriel Dubois a quitté son poste. C'est pas anodin, tout ça. Là. C'est ces partis qui viennent de tendances plus, disons, côté droit, côté gauche, plus pas extrême. Je veux pas utiliser ce mot-là parce que c'est comme si c'était négatif, mais plus dans le fond du spectre à droite et à gauche. Ces partis-là ont toujours le débat de la normalisation. C'est que pour être capable de gagner, il faut qu'ils reviennent vers le centre. C'est au centre que se situe la majorité de la population. Hein. Il faut qu'ils reviennent vers le centre. Et quand ils reviennent vers le centre, il y a du monde qui dit « Attention, il ne faut pas que tu perdes tes bases idéologiques. » Alors, c'est une chicane qui existe dans tous ces partis-là, qui sont issus du plus extrême, mais qui s'en vont vers la majorité. Ben, c'est un débat à faire. Mais ça reste que les chiffres sont là pour parler. Pour gagner des élections, il faut que tu retournes au centre. Pierre Poilievre, vous allez le voir faire ça. C'est inévitable. S'il a appris les leçons de la défaite, il va le faire. Ça va être la même chose pour les conservateurs. S'ils veulent gagner le pouvoir ou s'ils veulent gagner des comtés, il va falloir qu'ils fassent ça. Parce que les Québécois, puis l'ont montré à Arthabaska, on en a parlé cette semaine, et sinon, les Québécois ont un plafond pour ces partis-là. Ils vont atteindre un maximum, puis ce maximum-là ne sera pas suffisant pour se faire élire. C'est un choix qu'ils ont à faire. L'idéologie ou gagner. Puis dans le système parlementaire qu'on a, c'est un choix qui est obligatoire.
Parce qu'ils ne trouveront pas, actuellement, au Parti conservateur, ils ne trouveront pas meilleur chef qu'Éric Duhaime. C'est un gars qui, quand il a pris ce parti-là, c'est un parti qui était autour de 1% dans les intentions de vote. C'est M. Pouliot qui était là, Adrien Pouliot, qui était chef de ce parti-là pendant des années et des années. J'ai un énorme respect pour Adrien, mais c'est pas quelqu'un qui est hyper populaire. C'est pas quelqu'un qui dérange tout le temps, tandis que là, le chef est arrivé, Éric Duhaime, et il a fait monter ce parti-là. Tu sais, advenant le cas où tu veux le tasser, ça prend quelqu'un qui est capable de faire mieux que ce qu'Éric Duhaime a fait. Puis je trouve qu'ils sont sur une belle montée actuellement. Puis si on en croit les chiffres sur Québec 125, il y aurait 7-8 députés aux prochaines élections qui pourraient être élus chez les conservateurs. Donc l'arrivée d'Éric Duhaime à l'Assemblée nationale, ça pourrait être pour les prochaines élections. Donc le temps de vouloir couper la tête du chef en partant, c'est un peu weird, mais... Il y a toujours des extrêmes qui nous surprennent à chaque fois. On termine avec ça. Tu t'attends à quoi de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine aujourd'hui?
Ben, ça a l'air que Donald Trump veut le prix Nobel de la paix, donc il va sortir de là en disant qu'il a tout réussi. La réalité, c'est que le plus triste là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on fait des discussions sur la paix en Ukraine sans les Ukrainiens. Ouais. Et ça, c'est grave. Parce que dans le fond, ce qu'on fait du côté américain et du côté russe, c'est qu'on veut décider pour les autres. C'est une action de grande puissance, puis c'est là où est-ce que ces deux hommes-là s'entendent bien. C'est deux personnes qui pensent que leur pays sont au-dessus des autres pays. Moi, je suis un peu triste de cette situation-là. Puis en même temps, je souhaite aux Ukrainiens la paix. Donc, si ça peut aider, tant mieux. Mais il y a une chaise qui n'est pas à la table, c'est celle de l'Ukraine. C'est leur territoire, c'est leur monde, c'est eux autres qui souffrent, c'est eux autres qui sont fait attaquer pour qu'ils soient assis à table. C'est ça que, pour moi, est une incongruité. Pour les autres dossiers, ben, ça reste que Vladimir Poutine et Donald Trump s'apprécient depuis longtemps, se connaissent depuis longtemps aussi. Alors, on va sortir de là en disant qu'ils ont tout gagné parce que ce sont deux hommes qui ne savent pas perdre de toute façon. On gagne ou on apprend, ça a l'air. De leur côté, c'est la vérité.
Est-ce que Donald Trump va tout faire pour aider Vladimir Poutine, pour avoir une certitude que l'OTAN et l'Ukraine ne se parleront jamais pour que l'Ukraine soit un jour dans l'OTAN? Parce que l'Ukraine est collée actuellement sur la Russie, là. Puis je pense que c'est l'endroit tampon que Vladimir Poutine veut pas que l'OTAN touche parce qu'il veut une distance entre l'OTAN et sa Russie.
Ben c'est d'ailleurs les accords qui ont été signés dans les années 90, c'est ça qu'ils disaient en passant. Il faut quand même le rappeler, ça, que la Biélorussie et l'Ukraine étaient une espèce de zone tampon. Et l'Ukraine, parce qu'elle est souveraine, hein, parce que les Ukrainiens doivent décider pour les Ukrainiens, dans les dernières années, on fait des rapprochements. Moi, je pense que oui, l'arrivée de Donald Trump protège Vladimir Poutine d'une poussée de l'OTAN pour récupérer l'Ukraine. Je pense que la solution de paix, elle est aussi dans le fait de respecter cette espèce de zone tampon pour la Russie à ce moment-ci. Et de toute façon, Donald Trump n'est pas un grand partisan de l'OTAN non plus. Donc, je pense que oui, pour Vladimir Poutine, l'élection de Donald Trump était une bonne nouvelle à ce niveau-là et à ce sujet-là. Il y a une chose, par exemple, c'est que Donald Trump travaille pour Donald Trump. Donc, à la base, il va vouloir quelque chose. Ce qu'il veut, c'est pouvoir dire qu'il a sauvé, qu'il a fait la paix en Ukraine. Je reviens, je l'ai dit en début, c'est pas une joke. Il veut le prix Nobel de la paix. Et pour ça, il faut qu'il arrête des guerres.
Imagine-toi, prix Nobel de la paix puis personnalité de l'année.
Non, mais c'est une opération marketing. C'est plus de la politique. C'est une affaire d'influenceur. Mais comme influenceur réseaux sociaux, influenceur j'aime-moi, là.
Ben, c'est exactement ce qu'on vit avec depuis le début de la carrière politique de cet homme-là, qui est né par les réseaux sociaux, qui est né par cette capacité justement à influencer très « je me moi » dans un pays qui élit un président. Hein. Avant tout, on parle surtout du président, on parle moins des élus, donc il y a quelqu'un qui a un pouvoir énorme, malgré le fait qu'il est limité à certains secteurs. Donald Trump utilise ce pouvoir-là au maximum. Mais oui, c'est quelqu'un qui utilise le pouvoir pour lui-même. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un côté un peu autocratique, hein, un peu de cette ressemblance avec les dictateurs qui sont très très présent dans le pouvoir et très personnalisé dans le pouvoir. Lui a été élu démocratiquement, mais ça reste qu'il a des réflexes de toute façon. Est-ce que c'est bon? Honnêtement, à un moment donné, on n'est plus à analyser si c'est bon ou si c'est mauvais. Il faut juste être capable de s'adapter à cette façon de faire de la politique. C'est pour ça que la rencontre d'aujourd'hui, il faut avoir des attentes qui sont calibrées sur les personnages qu'on a autour de la table aussi. Moi, ce que je m'attends, c'est qu'à la sortie de cette rencontre-là, Donald Trump nous dise, quel que soit ce qui a été discuté, qu'on se rapproche de la paix, puis qu'il a fait ce qu'il fallait, puis que ça a bien été, puis que lui et Vladimir se sont entendus.
Ouais. Est-ce que les
ils ne veulent pas accepter une défaite.
Ouais. À la sortie, est-ce que les caméras vont être là live? Est-ce qu'on va assister à un genre de rencontre Zelensky de Donald Trump avec Poutine et Trump? Parce que là, ils se rencontrent à 15h30. Ça se passe en Alaska, de ce qu'on comprend. Est-ce qu'on va risquer du côté de Vladimir Poutine d'être à côté de Donald Trump à la sortie de cette discussion-là?
C'est le genre de choses qui sont discutées avant même d'arriver là-bas. Tout ça est calibré. Tu parlais de marketing, Pascal. Tout ça est minuté, calibré, décidé à l'avance, discuté, négocié. Chacun des gestes, l'arrivée, les caméras qui seront là, qu'est-ce qu'on va montrer aux gens à l'entrée, la sortie, c'est déjà décidé d'avance. Donc à la base, oui, je m'attends à avoir une image commune, celle qu'on aura décidé de montrer à la planète.
Parce qu'à la fin, lorsqu'on sort de cette discussion-là, on peut pas prédire d'avance ce que Donald Trump va dire. Là. Est-ce que ça peut être positif? Est-ce que ça peut concorder avec la discussion qu'ils viennent d'avoir? Ou sinon, Donald Trump va vouloir passer ses messages parce que la discussion n'aura pas été comme lui désirait? Ça peut être assez explosif. Là.
Oui, tout à fait. Puis, je pense qu'on a bien compris qu'avec Donald Trump, on peut pas deviner ce qu'il va dire. Je pense que lui-même, c'est pas ce qu'il va dire après. Mais il y a le fait aussi que ça reste qu'ils sont tous les deux très bons pour passer des messages. Puis ces deux hommes qui, on le sait, s'entendent quand même bien. Donc, je m'attends pas à une rencontre qui va mal se passer. De part et d'autre, on a donné un show les derniers temps. Trump a menacé M. Poutine. De l'autre côté, on a répliqué. Là, on va mettre les messages tous en commun, puis ils vont faire aussi ce qui est mieux pour la stratégie qu'ils ont implantée, parce que je reviens, ces gestes-là, ces rencontres-là ne sont pas le fruit du hasard. Ça vraiment, c'est orchestré, puis on décide qu'à ce moment-ci, c'est le bon moment pour se montrer ensemble, parce qu'on pense avoir la capacité de faire des gains ensemble, de passer un message commun. Tout ça, c'est de la communication. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'il y a des caméras.
Victor Henriquez, je dois te laisser partir, je sais que tu es en demande aujourd'hui, donc je te souhaite de passer un super de beau week-end.
Merci à vous, on s'en va bientôt.
Merci, bye, au merci. Revoir. L'analyste politique Victor Henriquez, je suis un peu d'accord pour ce qui est de la rencontre entre Trump et Vladimir Poutine. Il peut tout arriver à cette rencontre-là, mais tout est planifié au départ, au début, pendant. La fin, par exemple, la fameuse rencontre là, devant les médias, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner.
Une pièce de théâtre encore.
Oui, mais est-ce
Laquelle? Si
la rencontre ne va pas comme Trump veut, puis il décide de passer ses messages à la sortie, comme il l'a fait plusieurs fois. Là.
Ça va-tu être un petit peu dérangeant?
Ça pourrait-tu empirer encore cette relation-là? 11h59, courte pause! L'exceptionnel Denis Gravel s'en vient dans les prochaines secondes. Marceau.